qu'elle s'écrit dans une langue qu'on peut dater, eh bien, il reste que ce sens, cette révélation infinie, déborde de toutes parts le texte. Et c'est cela que nous devons chercher aujourd'hui.
Alors, pour le judaïsme, comme pour le christianisme, comme pour l'islam, cette révélation s'inscrit dans un livre. Et pour vous, M. Erkoun, cette révélation, comment passe-t-elle à l'écriture?
Eh bien, ce que vient de dire Abbé Cassis pourrait s'appliquer également pour l'expérience islamique des relations entre la révélation et l'écriture, en ce sens que le Coran insiste sur le fait que la révélation, c'est la parole de Dieu inscrite dans le livre archétypique. C'est l'expression même du Coran, Umm al-Kitab. Mais ce livre archétypique, c'est la totalité, si vous voulez, des significations que seul Dieu peut posséder. Et ce que nous appelons les révélations manifestées dans l'histoire, ce sont simplement quelques bribes qui sont communiquées à l'homme à travers la Bible, les évangiles et le Coran, c'est une suite. Ce sont des bribes de cette totalité du sens que Dieu possède et qu'il est seul à posséder. Et ces bribes qui nous sont révélées nous communiquent certaines volontés de Dieu, et alors nous retombons dans les problèmes de l'écriture, c'est-à-dire du déchiffrement de ce qui est ainsi dit dans ce que nous nommons le livre. Et là aussi le Coran a une expression qu'il répète très souvent, les gens du livre, ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire à la fois ceux qui participent à ce livre archétypique qui est Dieu lui-même et que seul Dieu lui-même connaît, et qui participe aux aspects qui sont révélés de ce livre archétypique. Ce sont ceux-là les gens du livre. Et le problème donc d'accès à ce qui est ainsi révélé et qui est conservé et communiqué et transmis à travers les générations dans l'écriture, ce problème-là a été affronté par les générations de croyants dans des conditions tout à fait semblables. Et ça, c'est un aspect des choses qui malheureusement est très ignoré dans l'histoire des trois religions, puisque l'histoire de ces trois religions, comme nous le savons, est faite de polémiques d'ordre intellectuel, c'est-à-dire de discussions où chaque communauté exclut l'autre de la participation à ce livre archétypique dont j'ai dit que, d'après le Coran, des aspects ont été manifestés dans l'histoire. Et cette exclusion mutuelle a duré tout au long des siècles et s'est traduite par une immense littérature qui est là et que nous commençons à étudier aujourd'hui et qui est la littérature de polémique islamo-judéo-chrétienne. Et aujourd'hui, ce problème de l'écriture a été en quelque sorte remis en chantier dans des perspectives assez différentes de celles qui ont été justement utilisées au cours des siècles. Je fais allusion à l'apport considérable de la linguistique qui a fait énormément de bruit, notamment en France, dans les années 60, et qui a remis en honneur le concept d'écriture, non plus sur le terrain de l'exploitation théologique, c'est-à-dire avec les a priori dogmatiques propres à chaque affirmation de la révélation dans les trois communautés, mais sur la base beaucoup plus positive de l'analyse de la langue, du fonctionnement de la langue, comment fonctionne la langue humaine. Car, quelle que soit la révélation faite, justement, cette révélation a été fixée dans une écriture, c'est-à-dire que la parole est devenue texte. Cette proposition, la parole est devenue texte, est absolument fondamentale dans toutes les démarches actuellement utilisées pour l'exploitation des textes, quels qu'ils soient. Du texte que nous disons révélé dans la Bible, les évangiles ou le Coran, jusqu'au texte de Paris Match ou de France Soir qui doit paraître aujourd'hui.
C'est-à-dire que, nous le savons par expérience personnelle, tout passage à l'écriture représente un appauvrissement du message primitif. Si on se situe sur le plan de la révélation, il est évident que les hommes, en recevant la voix de l'invisible, la voix de la divinité, et en essayant de la transcrire, ont privé, pour une part, cette voix divine de sa véritable ampleur. Et la richesse cachée sous l'écriture peut pourtant se retrouver à travers la diversité de l'interprétation que chacun applique à ce texte.
Oui, ça c'est un problème extrêmement délicat que personnellement j'aborde avec un certain nombre de précautions. Parce que nous avons dit révélation et écriture, ce terme de révélation doit être retravaillé précisément à la lumière de l'expérience que nous sommes en train de faire depuis très peu d'années. C'est tout à fait récent. Ce que je puis dire à ce jour, c'est que, encore une fois, les démarches proprement linguistiques d'exploitation des textes historiques en général nous obligent à remettre en chantier le concept de révélation. En ce sens que le concept de révélation a été présenté jusqu'à présent comme étant la parole de Dieu, ainsi que le dit le Coran et le disent d'autres textes, mais cette parole de Dieu, comment l'expliciter dans un discours quel qu'il soit? C'est-à-dire comment la cerner? Est-ce que véritablement il y a parole de Dieu, ou bien est-ce qu'il y a, dirait le linguiste, qui veut s'en tenir au terrain positif du donné qu'il peut saisir? Est-ce qu'il n'y a pas simplement expression de l'homme qui vit des expériences et qui exprime ses expériences selon un jet plus ou moins puissant dans les circonstances historiques où il se trouve engagé? Et la différence serait donc à situer entre le jet puissant de la première expérience que fait l'homme d'une réalité qu'il vit, et puis la reprise de ce jet au cours de l'histoire par des hommes qui disent que ce jet doit être désormais la source modèle de tout ce que je peux faire, et cette reprise devient nécessairement répétition, donc affaiblissement du jet primitif de l'homme en contact avec une expérience. Et je pose là un problème très grave, qui est un problème de théologie et aussi de connaissance, dans un sens philosophique.
Moi, Bécassis.
Oui, monsieur, entièrement d'accord avec ce que vient de dire Arcoun. On peut le dire de deux manières. Une manière d'abord toute simple, que s'il y a eu une expérience que l'auteur du texte ou l'auteur du discours oral, peu importe, il y a bien sûr des différences, essaye de transmettre, on dira en termes de linguistique, que toute langue est toujours composée de deux phrases, ce qu'on appelle le signifiant et le signifié. Alors il est clair que la langue elle-même, les mots, les phrases, les textes, ainsi de suite, sont ce qu'on appelle la forme du message, on pourrait dire les signifiants. Et il est clair que la linguistique, comme l'analyse structurelle du récit, nous permet, et il faut y passer, on ne peut pas ne pas les traverser et les assumer, nous permettent de circuler à travers les signifiants et d'en découper et de préciser le sens. Seulement, ce que nous demandons à nous, quand il s'agit d'un texte en général, à plus forte raison d'un texte saint, c'est que le structuraliste ou le linguiste en général accepte qu'en dehors de ces sens, il y a des significations, conscientes ou non, peu importe, chez l'auteur qui parle ou qui écrit, et dont il veut dire quelque chose. Et vous avez raison d'attirer notre attention sur le fait qu'à partir du moment où il en dit quelque chose de cette expérience qu'on appellera le signifié, se signifier, est-ce qu'il existe ou non. Mais à partir du moment où l'auteur parle de se signifier ou l'écrit, il le parle dans un moment précis, dans un lieu précis, dans une langue précise. C'est vrai, c'est un amoindrissement, c'est clair. Seulement, précisément, la tâche de l'interprète aujourd'hui, de l'herméneutique, comme on l'appellerait, est de faire le chemin inverse, avec ce présupposé parfaitement scientifique, d'essayer de retrouver non pas le signifié exact, comme le pensent les historiens, restituer le passé exactement, je ne pense pas qu'on puisse arriver un jour, mais enfin, rouvrir le texte en l'orientant vers ce signifié que l'auteur a essayé de transmettre. Ça, c'est d'une manière générale un exemple. Il y a un deuxième exemple, du point de vue linguistique même, il est curieux que chez les chrétiens, et c'est une question que je pose, on appelle le texte saint, le texte écriture. Les musulmans et les juifs n'appellent pas écriture, ils utilisent les deux, Coran et Mikran. Ils utilisent le deuil radical qui veut dire parole. On appelle le texte saint, non pas écriture sainte, mais Coran, c'est un radical qui veut dire lire ou appeler, et de même Mikra, c'est un radical qui veut dire lire ou appeler. Ça signifie que la visée jamais atteinte de l'interprète, c'est de restituer l'écriture à la parole dont est parti l'auteur en l'amoindrissant. Interpréter un texte, c'est l'ouvrir à son infinité de codes, à son infinité de sens. L'auteur, à un moment donné, pour des raisons bien précises, historiques, et là nous avons besoin de la méthode historico-critique, a été obligé d'organiser tous ses sens infinis et multiples autour d'un sens, d'un code qu'il a choisi d'une manière peut-être arbitraire, nous n'en savons rien. Interpréter le texte, c'est de nouveau rouvrir le texte à cette multiplicité de sens pour laisser chacun, sans privilégier aucun sens, se retrouver à l'intérieur de l'un de ses sens, qui transforme le texte en dialogue vivant du lecteur, du destinataire, avec le destinataire de ce texte, fut-il ancien, plus ancien que moi de 2000 ans.
Oui, mais par rapport à ces civilisations, où lieu la révélation, et qui sont des civilisations très éloignées de nous, on peut se demander si ce qui fut d'abord parole, et puis ce qui allait devenir ensuite écriture, ne représentait pas le lien qui nouait en quelque sorte des individus d'une même communauté. L'écriture représentant cette espèce de don commun dont bénéficiait l'ensemble de la société humaine et à travers laquelle elle se retrouvait. Or aujourd'hui, dans une situation religieuse tout à fait différente, c'est-à-dire où la relation des hommes, quelle que soit leur appartenance confessionnelle, est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus individualisée, où par conséquent l'écriture a perdu peut-être une part de cette valeur de le lien, est-ce que la révélation dans l'écriture se présente de la même manière?
Il ne faudrait pas oublier que l'écriture est liée au pouvoir, et que dans ce que nous pouvons appeler la révélation au sens extrêmement large, c'est-à-dire qu'il ne soit pas réservé à l'expérience des gens du livre, la révélation, c'est-à-dire manifestation d'une vérité au cours d'une expérience intense qu'un homme vit dans les circonstances les plus diverses, n'est-ce pas ? L'écriture est liée au pouvoir en ce sens qu'il y a une solidarité de l'État qui exerce un pouvoir dans un groupe humain déterminé, ou si vous voulez, une puissance de régulation d'un groupe, on employait le mot État qui peut être
précis.
C'est ça. Eh bien, l'écriture, ce pouvoir exercé par le groupe qui détient et qui, encore une fois, surveille ce qui se passe dans le groupe. Tandis que la parole est libre, est relativement libre de toute allégeance au pouvoir. La parole fonctionne dans le moment même où l'homme éprouve intensément un sentiment, une passion, une idée, et il l'exprime immédiatement, et c'est ce qui fait la richesse de la parole à laquelle nous référons lorsque nous parlons de révélation, cette fois-ci au sens religieux, et l'appauvrissement de cette expérience initiale, inaugurale, de quelque chose, encore une fois, qui est absolument limité et impossible à réaliser sa signification première, qui se trouve fixée dans une écriture que d'autres vont lire, et vont faire des efforts désespérés d'imagination, d'analyse, d'interprétation, pour essayer de se représenter ce qui a pu se passer dans le moment initial. C'est cette difficulté-là qui caractérise absolument toute l'histoire de ceux qui se disent gens du livre, c'est-à-dire de ceux qui se rattachent à une parole première qui a été prononcée quelque part par des hommes. Vous voyez, je ne prends pas position, si vous voulez, sur un plan théologique, s'ils sont en relation avec Dieu ou pas. J'essaye de décrire une réalité que tous les hommes vivent et qui n'est pas absolument limitée, si vous voulez, à notre expérience religieuse dans le cadre de la révélation sémitique.
Oui, mais alors,
c'est le problème de la relation entre la parole telle que je l'ai définie et qui, encore une fois, intéresse la condition humaine et toute expérience humaine, et l'écriture qui, elle aussi, intéresse tous les hommes, mais qui est une situation assez particulière par rapport à la parole, et surtout ce phénomène de solidarité entre le pouvoir et l'écriture va grandir au cours de l'histoire. Et l'histoire de l'islam, par exemple, est absolument liée à la montée de l'État musulman. Et la montée de l'État musulman a été suivie par la montée de l'écriture et de ce que nous étudions aujourd'hui sous le nom de civilisation musulmane. Et en regard de cette montée, il y a la parole qui a continué à fonctionner. Il y a un grand nombre de personnalités religieuses qui ont vécu la religion dans la parole seulement.
C'est ça, parce qu'on pourrait
Mais cette parole n'a pas été transmise ni écrite. Nous l'oublions parce que nous avons été justement poussés, dominés par cette solidarité État-écriture qui nous oblige à passer par l'école, à passer par l'enseignement, à passer par le rabbin, à passer par le prêtre, à passer par le mufti ou celui qui s'en occupe dans la religion musulmane, c'est-à-dire par un phénomène régulé du sens. Et quand je dis régulé, cela veut dire limité, censuré, commandé, orienté dans un certain sens, et cela veut dire aussi un phénomène de résidu très important. C'est-à-dire que la parole qui initialement est la grande richesse, qui initialement est la vie, est réduite à l'état de résidu, en ce sens qu'elle n'est pas captée, elle n'est pas conservée, elle est ignorée. Ça, c'est très important dans notre tradition, et c'est sur quoi il faudrait essayer de réfléchir pour relativiser justement cet empire de l'écriture.
C'est ça, mais parce que l'écriture a représenté cette réduction nécessaire à l'instauration de la société
humaine. Exactement, du pouvoir d'une société, oui.
Est-ce que la véritable foi aujourd'hui ne consiste pas précisément à rétablir derrière l'écriture la voix, c'est-à-dire à opérer le mouvement inverse?
Alors, absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça, et personnellement j'y attache beaucoup d'importance, et j'attache aussi beaucoup d'importance à ce que vous avez dit tout à l'heure au cours d'une conversation privée, à savoir que ce qui unifie l'homme, c'est un réseau d'images. L'image, l'imagination, l'imaginaire. Voilà encore des choses, bien sûr, il y a tout l'art, toute l'activité artistique qui a fixé un grand nombre de choses, mais là aussi, l'écriture a exercé un certain empire sur l'art, et tout particulièrement dans la tradition occidentale, et aussi dans la tradition musulmane, puisque le problème des représentations figurées, etc., dans nos traditions respectives, vous voyez un petit peu à quel point l'écriture qui est liée au logos, qui est liée au rationnel, qui est liée à la spéculation, qui est liée au développement de la raison, donc de l'articulation du sens dans une certaine rhétorique, avec tout ce que la rhétorique peut comporter de poids sur l'exercice de la pensée au sens riche, une pensée qui engloberait à la fois l'activité de l'imaginaire et l'activité de la pensée pensante et réfléchissante, tout cela a engagé, si vous voulez, notre destin dans une certaine voie que nous commençons aujourd'hui à comprendre, dont nous commençons à évaluer les conséquences considérables sur nos dimensions d'homme, qui ont été relativement appauvries par rapport à ce qu'elles ont été ou à ce qu'elles auraient pu être.
Je voudrais un peu également faire retour en arrière à ce que vous disiez tout à l'heure, que les mystiques juives, surtout à partir du XVIe siècle à Safed, mais avec des origines qu'ils ont tirées de la Bible des mystiques juifs, les Orans, au Moyen-Âge, en Espagne, ils ont distingué les trois niveaux de l'écriture en comparant à la parole. Ils disaient que pour que l'homme soit capable de parler, il faut la voix, il faut les consonnes, il faut que la voix battent le corps d'une certaine manière pour que la consonne soit faite, mais la consonne elle-même, elle ne peut pas être mue et passer dans l'histoire et être comprise par l'interlocuteur, il faut la voyelle. Voilà donc trois niveaux du discours. Or, Arkun avait raison d'insister sur ce fait qu'il y a un rapport entre l'écriture et le pouvoir, comme même sur la parole, il y a un rapport terrible d'amoindrissement et de pouvoir et de répression, dans le fait, voici que la voix va se mutiler d'un certain nombre de ses possibilités parce qu'elle est obligée par le corps, le pouvoir physique, de se couler dans les consonnes. Mais ça ne suffit pas. Il va y avoir une deuxième mutilation, dit ce mystique, au XVIe siècle. Les consonnes elles-mêmes, elles sont encore un peu riches de possibilités. Elles vont être réduites à une seule possibilité lorsqu'on va leur mettre une des voyelles. Or, on sait bien qu'en arabe, on le voit un peu moins dans les langues occidentales parce que la voyelle est devenue lettre. Mais en arabe comme en hébreu, à partir de trois consonnes, suivant les voyelles, on peut avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine de mots différents avec les trois mêmes consonnes qui ne bougent pas. Alors simplement en le rajoutant ou en enlevant certaines voyelles. Alors s'il y a un pouvoir sur l'écriture comme sur la parole, c'est au niveau de la consonne et de la voyelle. Est-ce que nous serons assez compétents et d'une manière scientifique, d'une manière rigoureuse, pour réabordant l'écriture ou la parole, la débarrasser de ces mutilations qui viennent du pouvoir pour, grâce à cette parole, et par cette parole ou par cette écriture, parce qu'on ne peut pas s'en passer, redonner à l'homme sa voix, c'est-à-dire ses possibilités infinies.
D'accepter ou de rejeter ces rites, ça dépend tout simplement de la conviction personnelle et de la position de chaque personne vis-à-vis de ces rites-là. Finalement, si on les comprend et on ressent quelque chose à travers leur exercice, bon bien c'est parfait, on les applique. Alors là, si le problème se pose, si on les remet en question, voire même dans le cas extrême, si on les rejette entièrement, bien dans ce cas, on s'abstient et puis c'est tout. Je crois qu'on peut conclure de cette façon-là.
Il y a peut-être aussi quelque chose de plus complet, ça va qu'il y a la nécessité d'introduire dans le temps et dans l'espace profane quelque chose qui rassemble au sacré.
Oui, alors ça, je pense qu'effectivement, quand on en est au stade de recherche où nous en sommes-nous, c'est très difficile. Et je ne dis pas du tout que c'est un aboutissement, c'est vraiment une phase de recherche qui est pénible.
Pour conclure, on pourrait peut-être demander à Janine de Bécassy comment les enfants reçoivent ce rite.
Oui, ça, c'est important. Alors, les enfants les reçoivent différemment. Je pense que si on leur fait vivre ces rites dans la joie et avec une certaine décontraction, eh bien, ces rites deviennent pour eux un véritable plaisir. Mais si on les vit avec austérité, eh bien, pour eux, ces rites vont constituer un carcan qui va les empêcher de s'épanouir. Je prends pour exemple justement l'obligation de ne pas prendre du lait après la viande, par exemple. Eh bien, ma petite fille de 3 ans, un jour, est venue à table et nous a dit « je n'ai pas faim ». Alors on s'est dit « elle est peut-être malade et il ne faut peut-être pas la forcer, on va la laisser faire ce qu'elle veut ». Et puis alors après, à la fin du repas, elle a dit « eh bien maintenant, je n'ai pas mangé de viande, j'ai le droit d'avoir du chocolat au lait ». N'est-ce pas? Alors on lui a dit ah oui, mais elle avait compris que si elle voulait manger d'une certaine chose, il fallait qu'elle s'impose des restrictions d'une autre chose. Puis ça s'est passé très très facilement et donc c'est devenu par la suite quelque chose de tout à fait admis. De même pour le Shabbat. Au début, elle allumait la lumière et on en riait au lieu d'en faire un drame. Et puis après, elle a très bien compris que le Shabbat, il y avait d'autres joies, des chansons, un bon repas, une réunion familiale, et que c'était pas si fondamental que ça de se passer de lumière dans une chambre ou dans un couloir. Donc je pense que tout est là. Pour l'enfant, tout vient des parents, de la façon dont ils vont présenter ces rites et de la façon dont ils les vivent eux-mêmes.
اهدنا الصراط المستقيم. tout intime. Une dimension palmus intime. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Voici que, séjournant en Égypte, dans une bourgade riveraine du Nil, je fus épris d'un amour passionné pour une jeune fille. À longueur de jour, je restais... que tente d'explorer maintenant Jean Alperin, Armand Abbé Cassis, Abdeselam Bou Imachil. Jean Alperin.
Pour moi, tradition n'a aucun goût de poussière. Je prends tradition dans son sens hébraïque, qui est, je crois d'ailleurs, aussi le sens latin, transmettre en avant à la manière d'un flambeau dans une course de relais. La tradition vivante qui s'appuie sur ce que nous avons reçu au long des générations et de temps immémorial nous permet d'avancer et, je dirais, de parfaire quotidiennement l'œuvre de création dans l'exercice de notre responsabilité plénière d'homme. Dans ma lecture juive de l'histoire, je vois à la base des réalités essentielles qui ont sans doute une valeur permanente et que j'actualise dans ma génération et dans mon temps face aux défis devant lesquels je me trouve et face aux problèmes que je dois résoudre. Par conséquent, ces vérités essentielles et permanentes me servent de point de repère et d'assises, mais il ne me libère pas de la perpétuelle nécessité de réinventer des solutions nouvelles face à des problèmes nouveaux.
Si je dois parler de la notion de tradition en islam, je ne serais pas tout à fait différent de la position que vient de dire M. Alperin. Moi, j'ajouterais que pour le musulman, la notion de tradition est une notion tout à fait dynamique, parce que l'islam lui-même est venu dans un esprit de changer l'état antérieur en un état meilleur. Et si on parle de cette conception fondamentale de tradition au sens dynamique, on s'aperçoit que la tradition n'a absolument rien de retardataire ou de régressif, mais au contraire, il faut que la tradition nous guide et qu'elle fonde nos racines dans un passé qui reconnaît toutes nos valeurs fondamentales pour nous permettre de regarder avec confiance et avec optimisme l'avenir. Et c'est cette relation entre le futur et le passé qui dirige notre présent.
Armand Abbé Cassis.
La fonction essentielle de la tradition
est existentielle. La tradition n'a pas pour but, comme dans certaines parties du monde, de résoudre des problèmes d'abord intellectuels. Il y a un problème concret à l'homme qui se pose. Et la tradition l'aide à la résolution de ce problème. Alors, quel est le problème concret qui se pose? C'est la réinsertion de l'homme à l'intérieur de quelque chose qui a commencé avant lui et qui, de toute manière, continuera après lui. Et la tradition, précisément, permet de répondre à ce problème en empêchant, et c'est en cela qu'elle empêche la névrose de l'homme, en empêchant l'homme de se croire à l'origine de tout. Pour nous, il n'y a qu'un seul qui est à l'origine de tout. On a pris l'habitude commune de l'appeler Dieu, soit. C'est le seul qui est à l'origine, et aussi bien dans le Coran que dans la Bible, Il est le premier, il est le dernier, il est seul, il est unique à l'origine. Ceci dit, c'est pourquoi dans la Bible, par exemple, on nous parle tant de généalogie, qui apparemment pour les historiens n'ont pas de sens, sauf pour ceux qui croient qu'il y a un code sacerdotal écrit par des prêtres et qui avaient besoin, ces prêtres, de constituer des généalogies et des calendriers pour bien régler l'histoire culturelle de la communauté. Soit, ça a servi également à cela. Mais je crois que la généalogie a une fonction psychologique et métaphysique profonde. Je veux dire simplement que moi, musulman, dans le Coran, je descends d'un certain peuple, d'une certaine histoire qui a commencé avant moi et à l'intérieur de laquelle je dois m'insérer, ou moi, juif, je descends d'une histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, et ainsi de suite. Moi, chrétien, ce serait la même chose. Et au fond, c'est à l'intérieur de cette définition précise de la tradition qu'on peut poser maintenant le problème fondamental que vous avez posé. Est-ce que, donc, les choses se sont passées avant moi, comme la querelle laïcisée, sécularisée des anciens et des modernes, tout est dit, et moi je ne pourrais que répéter, ce serait là une des fonctions des mythes, on le sait. Mais je crois que la tradition religieuse, musulmane, juive, dépasse la fonction de mythe, elle ne s'y arrête pas. Si j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé avant moi, est-ce que je dois le répéter à stricto sensu pour être sauvé? Et la problématique, je crois, elle peut être posée dans les termes suivants. Comment, puisqu'il faut la tradition pour m'y insérer, comment être fidèle en étant créateur? Comment être fidèle en ne répétant pas comme on vient de le dire? Et je crois que sur ce plan-là, on peut déjà, si ce n'est pas trouver de la solution au problème intellectuel, mais au niveau existentiel, si on pense qu'il faut que je sois fidèle en étant créateur, alors il est clair que je ne peux être fidèle et créateur, sentiment paradoxal, caractéristique d'ailleurs des conflits qui habitent la conscience religieuse, ce n'est qu'en restant fidèle à une dynamique. Il y a une dynamique qui a commencé à un moment donné, et à chaque génération, elle s'est possédée, incarnée de telle et telle manière. Je m'appuie sur ce qui est incarné pour y retrouver, dans ce qui est incarné, tel qu'on l'a transmis, la dynamique, les formes d'incarnation de cette dynamique, pour à mon tour, dans les conditions actuelles, dans l'espace et le temps, incarner la dynamique en lui restant fidèle. Alors l'incarnation dépend de ma responsabilité et de mon imagination. La fidélité, elle dépend de ceux qui ont commencé l'histoire avant moi.
Oui, on pourrait peut-être d'ailleurs rentrer mieux dans ce que vous soulevez ici, en mettant en relation avec le mot tradition tel qu'il est employé dans le langage religieux, avec le mot tradition tel qu'il est employé chez les ethnologues par exemple. Bon. Quand les ethnologues ou les anthropologues étudient une société traditionnelle, ils en repèrent les modes de vie, les modes de rêve, ils essaient de définir en quelque sorte l'habitat matériel et psychique d'une certaine communauté. Pendant longtemps, on a pu considérer que les sociétés, les communautés religieuses, au regard de ceux qui leur étaient étrangers, pouvaient apparaître comme une sorte d'habitat dans lequel se greffait un certain nombre de traditions qui effectivement s'inséraient dans la vie quotidienne. Or, aujourd'hui, l'ensemble de ces vies traditionnelles ont évidemment tendance à éclater sous le phénomène de nivellement de la société contemporaine. Et tout se passe comme si il s'agissait, au-delà de ce que représentait la tradition au niveau le plus banal, de retrouver ce qu'on pourrait appeler une tradition invisible.
À cela, je dirais que les façons de penser, de sentir et d'agir s'inscrivent dans ce que l'on pourrait appeler un paysage fait à la fois de mémoire, c'est-à-dire d'expérience historique, de valeurs éthiques et, je reprends le mot de tout à l'heure, d'un sens des responsabilités qui me conduisent à fixer mon comportement dans l'harmonie de ce paysage.
Vous avez parlé de la mémoire et Armand Bécassis a parlé de l'imagination. Or, on sait que dans notre champ psychique, il y a à la fois complémentarité et antagonisme entre mémoire et imagination, parce qu'un excès de mémoire tue l'imagination, et l'imagination véritablement créatrice a tendance à chasser le souvenir.
Je vous arrêterai là. Si la mémoire est fidèle au sens propre de ce terme, elle sera imaginative et créatrice. C'est-à-dire que, fort de cette expérience historique qui me précède, dont on en a parlé tout à l'heure, et dont je suis porteur et qui fait partie de mon identité, elle me poussera à inventer des solutions nouvelles dans la situation dans laquelle je me trouve.
Je crois que vous mettez face à face mémoire et imagination. Peut-être d'un point de vue intellectuel, c'est tout à fait possible de faire cette opposition. Mais il me semble que d'un point de vue religieux, la notion de tradition fait que je suis solidaire de 14 siècles, par exemple, d'histoire musulmane, que je suis solidaire de 2000 ans d'histoire juive, etc., etc. Et à partir de cette solidarité que je ressens individuellement et collectivement dans nos communautés, je peux, par ma spécificité, par ma position dans le temps et dans l'espace, imaginer une autre possibilité, c'est-à-dire trouver une solution nouvelle qui me permette, en partant d'un tremplin qui est la tradition, c'est-à-dire une espèce de levier qui me différencie, qui me spécifie, pour trouver une solution conforme à l'état où je me trouve. Et par conséquent, on ne devrait pas, à mon sens, opposer mémoire et imagination.
Oui, mais d'autant plus que même en langage psychologique, finalement, qu'est-ce que c'est la mémoire? Ce n'est évidemment pas la mémoire de quelque chose qui s'est passé et que je me remémorerai tel quel. C'est impossible, parce que la mémoire a travaillé de toute manière à partir de cette expérience originelle, et donc ce dont je me souviens maintenant, ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai vécu il y a longtemps, mais c'est ce qui revient en moi et qui prend sens à l'intérieur de ce que je suis maintenant. Même dans l'espace et dans le temps. Donc, le cadre social, par exemple dans le calendrier, me permet de repérer et de retrouver plus facilement la mémoire. Ça s'est passé le 2 janvier, ça s'est passé le 3 février dernier, ainsi de suite. Mais ça n'ajoute rien, fondamentalement. Et c'est pourquoi il faut dire que la véritable mémoire, c'est la mémoire d'un sens. Dans tous les sens du mot, n'est-ce pas? Et surtout psychologique ou psychanalytique. Quand je me souviens, ce n'est pas tant le contenu de ce dont je me souviens qui est important, mais la manière dont maintenant moi j'ai organisé les éléments de ma mémoire passée autour d'un certain sens. Quel est le sens précis? Eh bien, on peut maintenant appliquer cela par rapport au judaïsme, à l'islam, à la conscience religieuse. La Bible, le Coran, le Fqih, le rabbin m'apprennent à travers la tradition qu'eux ont reçue, et m'apprennent le sens qu'a eu cette histoire. Le sens aussi bien dans le sens de la direction, mais le sens dans le sens de la signification, direction et signification. Et à partir de ce sens, quand ils me mettent sur la voie, c'est ça la fidélité, et à partir de cette signification dont je ne peux pas sortir et que je choisis d'assumer librement, je suis absolument, totalement libre d'inventer ma manière propre, individuelle et communautaire, de vivre ce sens et de donner signification à ma vie actuelle.
Si vous voulez, je reviendrai sur cette opposition qui me paraît à mon sens fallacieuse entre mémoire et imagination. Parce que tout événement, mémorisé, etc., est toujours revécu d'une façon différente. Si vous voulez, on reprend l'image d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau. Et c'est ce courant continuel qui fait que le même fleuve ou le même ruisseau circule toujours entre les deux rives qui sont toujours éternelles et pourtant toujours échangeantes. Il y a quelque chose de permanent et quelque chose de changeant. C'est très contradictoire, très paradoxal. Mais au niveau des cul, c'est ainsi que ça devrait se comprendre. Quand je fais par exemple ma prière, c'est un geste courant, normal, quotidien, ma prière est très importante parce que je m'oriente, je prends un sens. Et la direction de la Kaaba dans la Mecque, par exemple, n'est pas simplement géographique, mais spirituelle, mais culturelle. Et quand je m'oriente vers la Kaaba, que je fais cette prière, je ne fais pas simplement un geste mécanique, un rite, mais je me remémore ou je reste fidèle à la tradition qui est ce fameux pacte qu'on reconnaît le Coran. Et ce pacte est un pacte transhistorique, métahistorique, qui dépasse l'histoire réelle. Et si je continue dans ce sens-là, les historiens trouveront que je divague, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment parce que je me place dans une perspective religieuse. Et ce geste séculaire de prière qui fait que je prends une direction, un sens, une orientation précise, la Kaaba, je revis ce pacte éternel avec Dieu qui est matérialisé par la pierre noire. Et l'origine de la pierre noire, on n'arrive pas à la déterminer parce qu'on dit qu'elle est tombée du ciel. Mais cette pierre noire est le signe matériel qui me rappelle ce pacte.
C'est-à-dire qu'on nous situe dans un temps et dans un espace qui est semblable à celui qui a été toujours vécu dans votre religion.
Je me situe dans un temps et dans un espace fidèle à celui de ma religion, et en même temps, je transgresse la notion classique d'espace et de temps, car ma vision du temps n'est plus la même.
Pourquoi ?
Je passe à un autre domaine que je ne peux pas fixer par rapport à l'antérieur, au postérieur, au présent, etc. Je fais un saut presque total, absolu, qui fait que je coupe avec toutes les notions conventionnelles, calendrier, etc., qui datent le temps.
Oui, on peut donner l'exemple aussi dans le judaïsme, du point de vue très 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 pratique, ce qu'on appelle chez nous la halakha, pour voir la dynamique de la halakha, de la loi. Ce sera très pratique peut-être pour comprendre cette idée de la fidélité créatrice. Et je prends l'exemple à dessein, pour détruire une image qui a duré pendant 2000 ans. L'opposition du Dieu d'amour dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, le Dieu jaloux dans l'Ancien Testament. Et l'exemple folklorique qui a passé dans la masse en Occident, c'était la loi du talion. Et la loi du talion, tandis que le Nouveau Testament dirait non, il faut pardonner par la loi du talion. Et puis aujourd'hui, pour un homme civilisé, la loi du talion est vraiment barbare. Alors on se demande ce qu'a apporté le mosaïsme, une loi barbare, même si on la place il y a 2000 ans, 3000 ans. Or, c'est qu'on n'a pas compris tout simplement cette idée de la fidélité créatrice. Alors, il faut comprendre que quand Moïse apporte la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est déjà une révolution extraordinaire par rapport à l'environnement, enfin au sein des civilisations, où il voyait vivre non pas la loi du talion, mais bien pire encore, la loi mosaïque suggère l'idée qu'il y a une différence fondamentale entre la justice et la vengeance. Quand on dit œil pour œil, dent pour dent, Moïse veut dire par rapport aux païens qui entourent le peuple hébreu, même aussi par rapport au peuple hébreu qui l'a sorti d'Égypte, attention, quand on te prend un œil, il ne prend qu'un œil, il ne va pas prendre deux. Il y a une différence entre la justice et la vengeance. Mais quand cette loi...
Même seulement l'équivalent de l'œil.
Bien sûr. Alors quand cette loi arrive à la Mishnah chez nous, qui correspondrait peut-être à la somnologie dans l'islam, la Sunna, oui, c'est-à-dire les rabbins qui veulent rester fidèles et être créateurs, savent très très bien qu'il faut encore qu'il aille loin en restant fidèle à la dynamique de la loi du talion, celle de Moïse, puisqu'on dit que c'était une loi de Moïse. Et ils disent, attention, la justice, œil pour œil, dent pour dent, et pas la vengeance, mais il est clair que ça ne peut pas être littéral, mais œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire l'équivalent. Et la preuve, le raisonnement qu'ils donnent, ils disent, Moïse n'a pas pu vouloir dire cela, œil littéralement, œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, si jamais quelqu'un enlève un doigt à un autre, mais il est clair que si c'est, comme on dirait aujourd'hui, un pianiste à qui j'enlève le doigt, et alors que c'est un balayeur de rue qui lui a enlevé le doigt, mais le pianiste a beaucoup plus perdu si on dit doigt pour doigt, tandis que le balayeur de rue n'a pas... C'est l'exemple donné par le Talmud. Il ne dit pas le pianiste, il dit le musicien. Par conséquent, on ne peut pas littéralement... Donc si on veut aller dans le sens de la justice, de la dynamique de la justice que Moïse a exprimée par œil d'homme pour nom, on veut dire l'équivalent. Autrement dit, si on enlève un doigt à un pianiste, on calculera combien dans sa vie lui rapportera matériellement, psychologiquement, socialement, spirituellement ce doigt jusqu'à la fin de sa vie, et c'est cela que celui qui lui a commis, fait le dommage, devrait lui payer. Et par conséquent, c'est relatif. Et il est clair que ce que je paierai au balayeur de rue parce que je lui ai enlevé un doigt est infiniment moindre que si j'ai enlevé le doigt à un pianiste ou à un musicien, c'est évident.
Vous avez réalisé tout à l'heure, et en nous avec Cassis, la névrose qui est celle de l'homme séparé de son substrat passé, de son histoire, de sa généalogie. Et dans ce sens, la tradition pourrait apparaître à l'intérieur de chaque représentation religieuse comme un pilier capable de soutenir l'homme dans son unité psychique, capable de le relier à ce qui fut avant lui et du même coup de le relier à lui-même.
Oui, je crois qu'il y a deux types de névroses que nous vivons aujourd'hui. La névrose, par exemple, qui est une philosophie sur laquelle l'Occident a vécu pendant longtemps, depuis Socrate, en rebondant sur l'humanisme de la Renaissance, au sens philosophique, et en arrivant à l'existentialisme athée. Dans le sens de Sartre, je suis libre, je suis créateur, et je suis origine de tout, créateur du bien et du mal, personne ne me dicte quoi que ce soit par rapport à cette liberté. Le phénomène fondamental pour moi, c'est la liberté. Avec ma liberté, je fais ce que je veux, bien sûr. Mais je crois que cet humanisme est une forme de névrose. Croire qu'on peut être à l'origine d'eux, alors que l'expérience toute simple, biologique, me montre que je ne suis pas à l'origine de moi-même, ne serait-ce que corporellement, à plus forte raison culturellement, socialement et religieusement. Et la névrose, elle, j'allais dire complémentaire, mais enfin parallèle, c'est la névrose de se croire à la fin de se prendre pour le Messie. Nous avons tous passé par cette névrose à 18 ans, Nous avons tous fait la révolution à l'université et nous voulons changer tout. Et nous voulons être le dernier homme, en même temps que le premier homme qui a dit que quand Descartes fonde la philosophie, il veut être à l'origine de tout et il ne veut pas qu'après lui il y ait de la philosophie. On peut dire que tout bon philosophe qui se respecte veut être le premier philosophe et le dernier philosophe. C'est l'entreprise de Descartes, l'entreprise de tout philosophe. Moi, je crois qu'il faut sortir de ces deux névroses, les névroses du commencement et la névrose de la fin. Comme d'ailleurs les névroses complémentaires inverses. Il y en a, mais c'est deux faces de la même pièce. Il y en a qui ont peur de commencer aussi. Il y en a qui ont peur de finir. Il y en a qui vont vite commencer, mais qui ont peur de finir. Il y en a qui commencent difficilement, mais qui ne finissent jamais aussi ou inversement. Et bien, je crois que finalement, la situation de l'homme, c'est toujours entre deux. Et tout le problème est de savoir comment le monde a vécu jusqu'à moi, comment à travers mon peuple, ma communauté, le monde a été assumé, comment mon peuple personnel, musulman, chrétien, etc., juif, a abordé le monde, participé à la civilisation de l'humanité en général, et ce qu'il en a retenu, qu'il a été, lui, le domaine qu'il a taillé dans l'histoire générale de l'humanité pour s'en porter le garant, le peuple élu, j'allais dire, et chacun devrait être le peuple élu. C'est dommage que tout le monde ne soit pas le peuple élu, dans ce sens-là, c'est-à-dire le peuple responsable d'un certain nombre de choses dans le monde. Et me replacer à l'intérieur de ce cadre, être le messie, croire que je pourrais apporter au monde, moi, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'amour, la justice, l'individualité, la socialité, la sexualité, le ciel, la terre, cela, ce ne sera jamais impossible. Mais je sais que dans les 70 ans de ma vie et dans les 3000 ans de mon peuple, 2000 ans ou 1000 ans, je peux quand même apporter et garantir un certain nombre de choses que je réassume, mais en préservant mon originalité. Il n'y a qu'un seul être exceptionnel qui peut recevoir en ne marquant pas de sa griffe, c'est le prophète. Nous ne sommes pas prophètes non plus. Il y a des prophètes possibles, le prophète prête sa voix en devenant néant. Il n'est pas demandé non plus à nous d'être prophètes.
C'est-à-dire que la richesse de l'humanité est faite de la multiplicité de ces expériences spirituelles juxtaposées qui, au fond, creusent chacune un sillon à l'intérieur duquel chaque créature, suivant la généalogie à laquelle elle appartient, trouve son propre sens.
Oui, Dieu est une lumière. Et cette lumière peut être perçue de différentes manières, suivant la manière dont je l'aborde. Mais aucune manière n'est supérieure à l'autre. Et c'est pourquoi chaque responsable d'un certain type de rayonnement et de la perception de cette lumière doit être responsable en même temps de celui qui est à côté de lui et qui risque de faire pâlir cette lumière pour le pousser à faire briller cette lumière comme il la reçoit lui, parce que ce serait dommage qu'elle ne brille pas comme il la reçoit et ainsi de suite. Et je crois que c'est un prisme. Aucun individu, aucun peuple, je pense, ne peut aujourd'hui affirmer qu'il a fait le tour de Dieu. Mais tout peuple, en tout cas les religions monothéistes, c'est évident, mais a priori n'importe quel peuple, en ouverture vers l'infini, vers l'absolu, a raison, a le devoir et a le droit. Et l'humanité doit lire, et les autres peuples doivent l'y aider, à ouvrir pour l'autre, l'humanité, sa propre fenêtre et la manière dont lui, j'allais dire, l'astique, l'a fait briller. Parce qu'il a raison, s'il ne le faisait pas, la lumière serait mutilée de son aspect à lui, de ce peuple.
L'histoire nous offre beaucoup d'exemples de cette opacité des traditions les unes par rapport aux autres. Et est-ce que la difficulté de l'histoire ne viendrait pas précisément que les traditions ne sont pas regardées par l'autre, que c'est autre chose que la tradition qui participe au jeu historique?
C'est peut-être dans cette mesure-là qu'une rencontre comme celle de Sénanque nous a apporté beaucoup aux uns et aux autres, parce qu'elle nous a obligés à dépasser notre vision limitée habituel qui nous est propre et à jeter un regard sur l'horizon des autres.
Incontestablement que le fait de pouvoir réfléchir ensemble ouvre des horizons tout à fait neufs et permet par la même occasion de se découvrir en quelque sorte soi-même, car c'est vis-à-vis de l'autre qu'on peut reconnaître ses propres valeurs en reconnaissant celles d'autrui. Mais un dialogue interreligieux est une chose tout à fait importante, et le Moyen-Âge par exemple, ce qu'on appelle le Moyen-Âge à l'époque islamique, était un dialogue permanent entre chrétiens, juifs et musulmans, et le calife, c'est-à-dire le détenteur du pouvoir lui-même, incitait les gens à argumenter devant lui. Lui n'avait pas à trancher, mais enfin il avait à voir qui est-ce qui argumentait le mieux. Et cette liberté d'esprit, je ne dirais pas cette tolérance parce que c'est quand même un choix important, fait qu'on dépasse le côté opaque des traditions. Les traditions elles-mêmes, il nous semble, ne sont ni ténébreuses ni lumineuses. C'est la lecture que nous faisons des traditions qui fait qu'on les interprète d'une façon ténébreuse, obscure, ou d'une façon claire et lumineuse, de façon à pouvoir faire quelque chose de positif.
Est-ce qu'il n'y a pas certaines transformations qui s'opèrent dans le champ de la culture contemporaine, dans la mesure où cette tradition qui a été longtemps une matière de vie, enfin le substrat de l'existence telle qu'elle était vécue souvent par les gens les plus humbles, les plus démunis, cette tradition est souvent entrée maintenant dans le champ multiple des exégèses, des lectures difficiles, et où par conséquent les clercs, qui ont toujours fait partie d'ailleurs des systèmes religieux, donnent des interprétations qui quelquefois ne sont plus utilisables par l'ensemble de ceux qui participent d'une certaine foi. Est-ce qu'il n'y a pas un certain fossé qui risque de se creuser dans la mesure où les interprétations, les lectures de la tradition deviennent trop compliquées?
Si je me réfère à la tradition juive, pour revenir à la foi et à la tradition et à la dimension juive, je dirais que l'étude et l'intelligence ne sont le monopole de personne, pas plus d'aucune caste, d'aucun groupe, que d'aucune personne. Et que la vie humaine, au sens fort de ce terme, commande à chacun l'étude, la recherche de l'intelligence, que cette intelligence ne s'acquiert pas sans effort ni volonté, mais que c'est au contraire une démarche quotidienne. Et que dans ce sens-là, je ne pense pas qu'il faille privilégier la connaissance à un certain niveau d'accession sociale ou culturelle.
De nouvelles questions se trouvent posées à nous sur la nature de notre culture, de notre civilisation, de l'univers mental dans lequel nous existons présentement. C'est ce que nous pourrions appeler l'anthropologie qui est la nôtre. Alors je crois que l'une des prises de conscience fondamentales que nous avons en commun comme monothéistes nous vient de cette interpellation, de cette provocation de l'univers environnant. La richesse même de ces cultures, leur actualité pour le temps présent, la richesse littéraire qu'elles ouvrent, ce qu'on pourrait appeler la fête sémantique, la fête du langage qui est inaugurée par cette culture qui donne prise aux sciences humaines, peut donner l'impression au monothéisme contemporain qu'ils supportent mal le défi et que leur tradition, que leurs expressions de leurs convictions ne font pas le poids par rapport à ces investigations profondes des sciences humaines. Alors je crois qu'il est en effet important de souligner ce défi, peut-être parce qu'il est la chance qui serait offerte aux trois monothéismes de voir que néanmoins ils gardent un secret qui est le secret de l'histoire. Parce que c'est une hypothèse que je livre, mais il me semble que l'interrogation profonde que l'homme porte sur lui-même touche à la question de son historicité. Il peut chercher à s'interpréter par rapport à une archéologie, par rapport à un passé, mais découvrir le sens de son histoire reste le champ clos des herméneutiques basées sur la mythologie, et me semble-t-il, c'est là que nous touchons la question du point commun des trois grands monothéismes.
Alors, il y a eu comme thème fondamental, comme thème premier de ce colloque de Sénanque, le thème de la révélation, c'est-à-dire que l'islam, le christianisme, le judaïsme se présentent comme des ensembles spirituels nés d'une parole révélée directement par la divinité aux hommes.
C'est-à-dire en tout cas pas d'une révélation primitive, mais d'une révélation qui survient dans l'histoire et qui surprend l'homme, qui interpelle l'homme, au niveau précisément des événements qui font son histoire. Et je crois que là, il y a une ambiguïté latente dans la notion de révélation sur laquelle il faut être au clair et qui rend précieux l'échange que nous avons entre juifs, chrétiens et musulmans. C'est que le sens des événements fondamentaux auxquels nous nous rapportons nous apparaît de plus en plus comme le véritable moyen de comprendre l'existence humaine.
Mustapha Chérif, par rapport à cette parole révélée, à cette révélation à l'œuvre dans l'histoire, que représente pour vous l'ensemble des acquis, des héritages venus de la mythologie? Est-ce que, dans une certaine mesure, on ne pourrait pas dire que l'ensemble des valeurs mythiques qui nous sont livrées par les âges peut s'insérer parfaitement dans la spiritualité contemporaine telle qu'elle est vécue par l'islam.
Vous savez, l'islam a facilement, au cours de son histoire, pu assimiler les cultures ou les sensibilités des différents groupes, avec bien sûr leur accession aux dogmes, aux lois et à la vision coranique, mais aussi avec leur sensibilité et leur imaginaire. Et c'est dans cet imaginaire que s'inscrivent les mythes ou les mythologies. Mais ce qu'est venu apporter l'islam par rapport à cet imaginaire de l'homme qui pour nous est relatif, c'est un certain sens, une certaine vision de la vie qui se veut sacrée, absolue, et qui justement veut se débarrasser de tout imaginaire qui puisse être un frein, un écran, ou créer une opacité, une sorte de regard de l'homme sur le monde ou sur l'autre. Et souvent, le musulman vous répondra que cet imaginaire, ces mythologies, sont un obstacle, justement, à la communication de l'homme à l'autre, ou la communication de l'homme face au monde. Et c'est pour ça que cette mythologie, pour nous, nous avons un rapport qui est différent, d'une part. Et deuxièmement, cette mythologie, pour nous, n'est pas simplement l'imaginaire aussi de certains groupes, mais aussi l'idolâtrie ou le polythéisme, qui s'inscrit aussi dans une sorte d'imaginaire ou de mythe. Face à cette situation de polythéisme ou d'idolâtrie que nous nous trouvons aujourd'hui, nous musulmans, dans une situation où justement il y a une profusion de certains mythes, le mythe de l'argent, le mythe de la société de consommation, même le mythe de l'homme à soi par rapport à ça. Donc, l'islam et la révélation islamique me permettent de faire éclater justement cet imaginaire et d'avoir non pas un rapport définitivement clair ou simple par rapport à l'autre, par rapport au monde, mais de permettre de vivre le risque d'être là sur Terre, comme égaré, comme dit Rilke, mais de me permettre justement de mieux recevoir ce risque. Ou comme dit Heidegger, à quoi nous sert-il d'observer les constellations de la vérité? C'est dans ce danger que nous percevons la croissance de ceux qui sauvent.
Que nous soyons en terre islamique, en terre chrétienne, enfin dans l'ensemble des terres couvertes actuellement par la civilisation qu'on dit occidentale, on a le sentiment qu'on assiste à une profanation complète, ardente du monde dans lequel nous vivons. Et dans ce sens, on pourrait se demander si le regard que peuvent jeter aujourd'hui le judaïsme, le christianisme et l'islam vers les représentations archaïques, vers les mythologies anciennes, ne représente pas, de la part de ces religions, une tentation, une tentative aussi, pour essayer de resacraliser l'existence dans ce qu'elle a de plus quotidien. André Dumas.
Moi, je crois que vous faites une observation très juste, c'est-à-dire que je crois que nous avons vécu, enfin que nous vivons encore dans des sociétés de progression technique, de progression scientifique, et puis que brusquement, cette sorte au fond de progression continue s'avère peut-être au niveau des significations, ou un absurde, ou éventuellement même un non-sens. Et du coup, il y a dans le monde moderne, même dans la fuite en avant dans le technique, il y a une recherche de racines, disons, dans l'archaïque. Je crois que c'est très vrai comme observation générale, c'est un peu peut-être d'ailleurs le regard que Malraux avait autrefois sur l'art plongé dans l'immémorial des religions. Pourtant, le mot essentiel que j'aimerais redire, puisque vous l'avez signalé, la réunion qui nous rassemble est une réunion autour de la notion de révélation. Je crois que la révélation, je dirais à la différence des initiations, c'est l'idée, à la fois hasardeuse, mais qui pour les croyants est un bon pari, que Dieu parle, se dévoile. C'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement devant le destin ou le silence, où on pourrait dire la progression est définie, mais nous sommes devant l'acte de quelqu'un que nous appelons Dieu et qui se dévoile à nous. Tandis que les initiations, et volontiers, je rangerai peut-être ce retour vers l'archaïque dans les initiations. Les initiations, c'est le besoin qu'a l'homme de reconstituer une sorte de grande symbolique cosmique parce qu'il est perdu, on pourrait dire, uniquement dans la progression scientifique. Alors, je ne nie pas l'importance de la reconquête du symbolique, parce que souvent nous sommes des égarés.
cosmos.
Je voudrais dire un mot, puisque la notion de sacré a été évoquée, et qui est dans le prolongement de ce que vient de dire André Dumas. Il me semble que cette notion de sacré, en tant que retour de l'archaïque, en tant que ce sacré qui filtre à travers les civilisations et qui déboucherait à travers même la modernité la plus technique, est la notion la plus ambiguë qui soit. C'est peut-être même au sein de la modernité le retour de l'archaïque. Et il me semble que les religions monothéistes, les religions de la révélation, tranchent par rapport à cette notion de sacré, sous la notion de sainteté, qui est peut-être très dégradée, faussée par les représentations que l'on peut en avoir, mais par une notion qui est celle de la mise à distance, que ce soit celle de Moïse devant le buisson ardent à une distance de 4 coudées, que ce soit celle du prophète Mohammed à une distance d'arc. Il y a une mise à distance, un recul, qui est le temps du passage, peut-être de l'inconnu, de l'innommable et de la transcendance, mais que nous ne sentons pas du tout dans les récits mythologiques. Si je donne ici une interprétation qui peut paraître réductrice pour certains interprètes de la mythologie, il me semble que c'est néanmoins cela qui distingue radicalement l'univers de la mythologie, qui se retrouve dans l'univers monothéiste, mais transformé, assumé dans une vision entièrement différente à partir du moment où il y a eu l'impact de l'événement.
Le sacré pour nous n'est pas quelque chose d'archaïque ou quelque chose qui pourrait revenir à un ancestral perdu de vue, mais bien au contraire des points de repère. C'est d'abord, le sacré c'est une règle fixe. Une règle fixe laquelle? C'est de se référer à un créateur, à la divinité absolue et sacrée, qui nous donne l'obligation de répondre à un modèle qui se trouverait dans une sorte de divinité lointaine ou dans un au-delà, ou dans un céleste. Mais cela reste très vague. Alors ce que je pourrais vous dire, c'est que le sacré pour nous, c'est une orientation, un rythme et une direction. Le mot le plus répété dans tout le livre révélé pour les musulmans, le Coran, est le mot Houda, et la direction. Le sacré a pour souci de nous diriger, et de nous diriger non pas dans quelque chose qui est tracé, non pas dans un encadrement qui se veut saint, qui se trouvait dans tel homme ou dans tel lieu, mais c'est par-delà, même s'il y a une direction, certes sacrée, sainte, qui se trouverait la Mecque pour le musulman, mais disons, il y a une orientation, un rythme de vie qui est encadré par les principes de la prière, par exemple, 5 fois par jour, du lever du soleil au coucher du soleil, mais aussi par la manière même dont on habite. Ce qui est dit dans le Coran nous oblige à recevoir et écouter l'autre. Cela, c'est le sacré. Ainsi, cette révélation coranique, elle ne vient pas non pas me donner des garanties définitives afin d'être sauvé. La révélation, c'est d'abord l'histoire du salut. Mais bien au contraire, elle vient pour que je sois attentif au risque que je cours ici sur Terre. Si je ne rencontre pas l'autre, et si je ne regarde pas le monde. Et c'est par le langage que je deviens, disons, moins étranger à l'autre, moins étranger au monde. Et c'est pour ça que ce dialogue que nous pouvons avoir entre deux religions monothéistes est important. Mais en sachant que le statut est différent. Ainsi, cette référence est d'un créateur qui parle aux hommes dans une dictée surnaturelle, est une chose à laquelle nous tenons beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais nous tenons, disons, beaucoup à cette vision du musulman, qui est beaucoup plus qu'un culte, qui est beaucoup plus une manière de prier et de voyager, mais bien au contraire, disons, un regard qui rythme, qui encadre le musulman, non pas qui le fixe, mais, disons, qui essaye de lui donner les moyens de se frayer un chemin qui n'est absolument pas ouvert par la révélation. Mais il nous donne le moyen d'être peut-être moins risqué, si j'ose dire, ou moins égaré, ou de se retrouver. Et c'est ça le sacré. Et le sacré, c'est pas simplement les ablutions et de la prière.
C'est-à-dire le chemin que chacun doit trouver.
Le chemin que chacun trouvait vers un centre, vers une règle absolue, qui est le créateur, le divin.
Mustapha Chérif, tout à l'heure, a évoqué la part essentielle que joue l'imaginaire dans la représentation religieuse. Nous avons évoqué cette relation du christianisme et du judaïsme et de l'islam avec la parole révélée, qui se situe dans un ensemble mythique qui nous est bien décrit, bien raconté par les livres sacrés. Et la question que l'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est de savoir si, dans la transformation, dans la mutation que doivent inévitablement vivre les mouvements monothéistes aujourd'hui, il n'y a pas comme un renouvellement nécessaire de cette parole des mythes à l'intérieur de chaque mouvement spirituel.
Certainement qu'aujourd'hui, une profusion d'images qui naît à la fois par la contact, par la multiplicité des communications et la multiplicité, disons, des réflexes que face à tel ou tel événement, face à tout ce qui se passe. Et comme disait Jean-Baptiste Vico, bon, la foudre est certainement quelque chose qui a dû frapper l'imagination des hommes, qui a profusé tel ordre. Aujourd'hui, la foudre est partout, c'est l'automobile, la télévision, tel et tel événement ou tout autre fait. Et l'islam, justement, commence dans son premier témoignage, dans son premier pilier, à nous dire prenez garde contre ces images-là que vous pouvez vous avoir parce que vous serez frappé par telle ou telle image. Et on dit il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et ces dieux-là dit il n'y a pas, au sens de pluriel, c'est les images, c'est toutes les images que l'on peut avoir à tel moment ou dans telle société. Voyez, alors c'est aujourd'hui le musulman, justement, non pas à imposer ou à proposer quelque image que ce soit, mais plutôt à se méfier de toute cette profusion d'images qui se crée aujourd'hui dans un monde où les choses sont en multiplication. On propose toutes sortes d'images à l'homme qui essaye plus ou moins de répondre à ses besoins ou à ses désirs. Pour nous, toute cette relativité ou tout ce relativisme est à nier, est à refuser, quel qu'il soit.
Est-ce qu'on peut échapper à ces images sans tomber dans l'abstraction?
Échapper, je ne sais pas si c'est le mot, s'il faut échapper, mais disons qu'il faut qu'on se donne les moyens à partir de la parole coranique, tandis que c'est la référence fixe et absolue avec laquelle nous essayons de nous, disons, de nous donner les moyens d'avoir une grille qui puisse donner leur juste mesure à ces images.
Oui, Claude Maîtrat, je crois que vous avez tout à fait raison de poser très sérieusement ce problème, parce que les religions dont nous relevons, dont nous sommes issus, auxquelles nous appartenons, ont certainement conceptualisé la réalité dont elles témoignent. Et alors, le retour des images, enfin, la galaxie McLuhan, comme on dit, qui est caractéristique de notre temps, et qui contraste sérieusement avec ce climat conceptuel de nos appartenances, représente un très grave problème. Alors je pense que ce que vient de dire Mustapha Sharif représente une très profonde sagesse qui est peut-être le meilleur de ce que nos appartenances doivent apporter au monde d'aujourd'hui. Vous savez que nos traditions ont toujours eu à l'égard de l'image comme telle une sorte de méfiance. L'image, c'est le domaine de l'imaginaire, donc du prestige, donc de l'utopie, de l'illusion. Et par conséquent, c'est un passage, mais c'est un risque aussi. Je ne crois pas qu'elle soit réticente en soi à l'égard de l'image. Même la tradition biblique profonde n'a pas le mépris de l'image, mais elle le reconnaît comme un péril et s'en met à distance sous la forme de l'idée du Dieu non représentable. Mais je le disais, je pense qu'il y a dans le monothéisme, et dans son sens de l'historique, c'est-à-dire du rigoureux de l'existence humaine, une sagesse, un appel à resituer l'image dans un contexte humain plus fondamental que j'appellerais peut-être ici celui du geste. Nous sommes sous la suggestion de l'image, réapprendre le geste humain plein de sens, plein de tendresse, qui constitue une approche d'une réalité que nous ne connaissons pas et une approche tout simplement du frère, de l'autre homme que nous rencontrons. Le sens du geste qui me paraît alors rejoindre la notion profondément biblique, n'est-ce pas, du Dieu qui se fait proche, plutôt que d'en parler conceptuellement, du passage d'une réalité qui deviendra nôtre sous cet aspect d'une certaine attitude humaine que je trouverais plutôt dans le geste que dans l'image, encore que ça ne soit pas négateur de l'image. Vous savez d'ailleurs que la notion de proximité, c'est la notion qui exprime fondamentalement le sacrifice. On parle de sacrifice très brutalement de nos jours, mais la notion du Dieu qui se fait proche, c'est celle-là même qui est signifiée dans ces réalités mystérieuses du sacré fondamental.
André Dumas. Moi, je suis très heureux que vous abordiez cette question de l'image. J'aimerais quand même pas qu'on dise ou le concept ou l'image. J'aimerais qu'on puisse dire, si l'on pouvait, et le concept et l'image. C'est-à-dire que je crois que le concept a comme rôle humain, d'essayer de nous éviter le diffus, de nous obliger, non pas à enserrer Dieu, encore moins Dieu que l'autre homme d'ailleurs, mais à nous obliger à sortir au fond d'une sorte de brouillard dans lequel nous nous complaisons parce que nous n'osons pas nous exprimer jusqu'au bout. J'aurais une vertu d'assez expressive dans le concept. Et l'image, c'est au contraire une possibilité évocative dans laquelle nous pouvons tous entrer. Il me semble, dans la vie au fond religieuse, moi je croirais qu'il y a des dogmes qui sont des essais conceptuels, pas du tout de définir, mais d'exprimer ce que l'on croit. Et puis ensuite des images
qui sont font les facultés de faire vivre ensemble les êtres humains dans une espèce de nourriture commune. Je crois que Jésus à la fois utilisait des paraboles qui sont des images et des récits, c'est le côté évocateur des images hein, qui est très important, qui met en branle en nous la sensibilité, l'évocation, et en même temps il a utilisé par moments des phrases très simples, très sèches, hein, qui sont des espèces au fond de petits éclaircissements. Alors je crois que votre dernière question, ça serait, est-ce que vous n'avez pas besoin aujourd'hui d'images autres, parce que les temps ont changé? J'aime mieux employer le mot parabole que le mot image, parce qu'au fond, le mot parabole indique bien qu'il faut partir d'une réalité ordinaire, terrestre, hein, et à partir d'elle bondir ou tâcher d'évoquer ou de transmettre l'invisible de Dieu. Mais c'est sûr qu'il faut utiliser aujourd'hui des paraboles qui soient autres que les paraboles d'autrefois. C'est le rôle même, au fond, je pense, de toute communauté religieuse, de trouver les paraboles vivantes pour transmettre la même réalité.
Oui, Bernard Dupuis, tout à l'heure, a parlé de manière un peu vague du geste qui était à réhabiliter. Mustapha Chérif a parlé de manière plus précise des prières et de l'ensemble des rites, précisément, qui circonscrivent la vie religieuse. Et on serait peut-être tenté de se demander si l'espèce de dispersion que semblent proposer parfois les religions monothéistes, enfin en particulier le christianisme aujourd'hui, n'est pas due précisément à la disparition de la ritualisation de la vie quotidienne. C'est-à-dire, est-ce que toute attitude religieuse, tout dialogue religieux, tout échange de l'homme avec l'invisible n'est pas lié d'abord à une sorte de nouvelle conscience de la vie ordinaire qui demande, comme c'était le cas dans les sociétés archaïques et dans les sociétés qui seront venues après, de rites qui s'inscrivent dans la vie de tous les jours et qui donnent au plus quotidien de nos existences son poids de sacré.
Oui, j'ai parlé de façon vague, comme vous dites, du geste, parce que peut-être la notion générale que l'on se fait du geste serait vague par rapport à l'image qui a le prestige de la clarté. Mais en précisant la notion de geste sous la forme de celle de rite, et c'est un peu là que je voulais venir, vous m'obligez en effet à dire le fond de ma pensée, c'est que le couple fondamental n'est pas celui du concept et de l'image comme nous le croyons habituellement, mais c'est plutôt celui du geste ou du rite et de l'image. C'est-à-dire que c'est à travers le geste ou le rite qu'une parole s'exprime sur l'événement que nous vivons. L'image en elle-même ne véhicule pas directement une parole, elle est image, n'est-ce pas ? Par conséquent, elle est révélatrice du réel, elle est révélatrice du moment que nous vivons. C'est pourquoi d'ailleurs elle est prestigieuse, c'est qu'elle nous fait apparaître ce que cache de réalité l'instant présent. Mais alors, ce qui est propre à nos religions, auxquelles nous nous rattachons, c'est le fait que dans la parabole, une parole est à la clé. Une parole qui est celle de l'événement que la parabole explique. Et la même chose dans le rite, je crois qu'on se fait trop facilement l'idée du rite comme geste méthodique, enfin comme geste répétitif. Et ça, je ne crois pas que ce soit la notion du rite dans nos traditions respectives. Je crois que le rite est là et n'est pas là pour autre chose que pour délivrer une parole. Et alors, c'est là